le Club Notarial Immobilier, mardi 28 mai 2024.
Bienvenue dans la suite du Club Notarial de l'Immobilier. Le thème de ce matin, c'était quel visage pour le Grand Paris après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et pour ce faire, ma première invitée, c'est Élodie Frémont. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Alors vous êtes présidente de la commission des statistiques immobilières et notaires à Paris, également dans le 6e arrondissement. Alors sachez que je suis ravi de vous avoir, puisque la dernière fois, on n'avait pas pu se retrouver pour faire un débrief ensemble. Pour commencer, question toute simple, quel bilan tirez-vous de ce premier trimestre 2024?
Bah, il n'est pas très joyeux. On est, on savait, hein, on est dans une crise du marché immobilier qui persévère, avec des chiffres qui sont proches de ceux d'il y a 5 ans, donc c'est vraiment du rétro-pédalage. On a moins 24% de transactions, de volume sur l'ensemble de l'Île-de-France, une baisse des prix moins 8%, et on a revu notre méthodologie pour calculer justement cette volumétrie. Et ce qui est très inquiétant, enfin ce qui peut, oui, inquiéter, c'est que cette baisse de volume s'affiche à moins 40% sur 2 ans, de trimestre à trimestre.
Et selon vous, est-ce qu'il y a une ou plusieurs explications à cette baisse qui, malheureusement, ne s'arrête pas ?
Oui, on a 3 acteurs essentiels pour qu'un marché reprenne, en tout cas en volume. Je ne parle pas de prix, mais en volume. On a 3 acteurs essentiels, les pouvoirs publics, le vendeur et le banquier. Donc les pouvoirs publics, par des incitations, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient financières. Je pense par exemple que par des temps de crise, on a connu une déductibilité des intérêts d'emprunt, même sur des résidences principales. Lors d'une autre crise, sous un autre gouvernement, on a connu aussi des avantages fiscaux, dits défiscalisation, sur des programmes neufs. Bon, ben ça, on les a pas, et bientôt, on en aura plus, ou en tout cas encore moins. Ça, c'est le premier acteur, les pouvoirs publics. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience avérée et sensible et profonde sur non seulement le marché de l'immobilier, mais le marché du logement dans son ensemble. Le deuxième acteur, c'est votre vendeur. Le vendeur, il reste sur ses acquis des années post-Covid, qui étaient avec des hausses de prix franchement très rapide, et ça n'est plus. Il faut vraiment revoir le prix à la baisse, et des révisions de prix à 8%, ça n'est pas suffisant pour répondre à une demande. Et enfin, c'est le banquier. Disons-le très clairement, c'est la solvabilité de votre acquéreur. Si votre acquéreur, il n'a pas un prix qui baisse, ou alors il n'a pas un taux de crédit qui lui permette de financer l'opération, sa solvabilité est endommagée, vous ne le trouvez pas sur le marché, et bing, moins 40% de volume de transactions en 2 ans.
C'est intéressant que vous parliez justement de la hausse des prix qu'il y a eu pendant le Covid. Est-ce que vous pensez aussi que le fait que les personnes qui aient pu acheter des biens avec une hausse des prix pendant le Covid ne veulent pas justement perdre cette hausse des prix qu'ils ont pu avoir en se disant « Ah bah je vais faire un petit bénéfice ». Est-ce que ça aussi, ça rentre en compte dans ces données ?
Absolument. Alors on a pu constater 2 choses, en tout cas de notre analyse générale aux notaires qui nous réunissons lors de cette commission, c'est qu'on a été mal éduqués avec des taux d'intérêt très très faibles. Pour être très franche avec vous, hier il y a eu un rachat, bref, de Soult entre des personnes qui se séparaient. Je vois des taux d'intérêt à 0,45%, c'est presque
digne
de Mars. Et c'est surtout ce qui fait rêver, c'est qu'il soit maintenu en 2024. Donc c'est sûr qu'on a été mal éduqués. Du coup, on a fait rentrer sur le marché des primo-accédants qu'on ne voit plus aujourd'hui. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de financer une opération à 3,5-4%. Ça, c'est très très clair. Et ensuite, vous avez tout à fait raison sur le secondo-accédant. C'est celui qui regarde sa copie et qui dit « Attends, si je vends, je perds mon taux d'intérêt, mais en plus j'achète plus cher. Et peut-être même que j'achète plus petit. Alors à choisir, bah, je ne vends pas. » Donc on se retrouve avec des vendeurs qui n'ont pas envie de vendre, on les comprend. Hein, vous, moi, si vous avez un 200 m² et vous payez un emprunt à 0,8%, vous n'avez pas envie de revoir votre copie et d'aller soit vous loger au plus petit, et en plus un taux d'intérêt plus élevé.
C'est ça, c'est le fait aussi qu'il y ait c'est même pas une simple peine, c'est vraiment une double peine sur vous pourrez pas avoir aussi grand avec le même prix et en plus le taux a augmenté.
Exactement.
Et pour en revenir un petit peu sur le cœur de la France, Paris, qui est toujours sous la barre symbolique des 10 000 euros le mètre carré, selon vos estimations, en juillet 2024, on pourrait revenir à un niveau équivalent à celui à peu près de 2018 vers les 9 400. Comment vous expliquez ce chiffre, tout simplement ?
Alors, on a un petit effet saisonnalité qu'on constate honnêtement tous les ans, hein, c'est-à-dire qu'on a l'effet déménagement avant l'été, donc signature des actes, notamment des ventes. Donc, c'est nos indicateurs avancés, hein, c'est les promesses de vente que l'on recense qui nous permettent de dire, bah, dans 3 mois, on sait qu'il y a tant de ventes qui vont se concrétiser, avec évidemment des corrections, mais voilà. Donc, il y a cet effet saisonnalité, assurément, qui joue, mais on l'a dit, on n'est pas très optimiste sur le fait que c'est une situation pérenne. C'est un effet de saisonnalité, une espèce de fait de contrainte. Il y a forcément des gens qui sont contraints de vendre parce qu'il y a des droits de succession à payer, parce qu'ils se séparent et donc qui se relogent. Mais avec cette petite bémol en plus qui est de dire oui, mais ils se relogent comment ? Eh bien, il y a un constat, ils se relogent soit en louant et en attendant que les prix baissent et que les taux d'intérêt baissent, soit en rachetant plus petit, moins bien logé, voire mal logé.
Et est-ce que, par rapport justement, on parlait du Covid tout à l'heure, est-ce que vous observez une vente peut-être un peu plus massive sur Paris, des gens justement qui continuent peut-être de fuir Paris pour aller vers les différents littoraux, ou alors est-ce que c'est un effet qui s'est un petit peu estompé au fil des années et depuis quelques mois surtout ?
Alors, je vais être un peu sévère. Non, je vois pas. On voit en revanche des gens qui partent pour des mutabilités professionnelles, des mutations professionnelles, donc un effet mutable, et qui se retrouvent, et là je parle d'expérience professionnelle avec plusieurs clients que j'ai eus, et qui m'ont fait part de leur déception, qui est « on ne trouve pas ». On trouve pas pour justement j'ai été mutée à tel endroit, en l'occurrence c'était Bordeaux, et je ne trouve pas d'appartement pour loger ma famille et donc je ne trouve pas non plus à acheter, donc je ne sais pas si je vais pouvoir accepter.
Donc, selon vous, c'est un problème qui est général, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas parce qu'il y a peu de biens, ou est-ce qu'ils ne trouvent pas aussi parce qu'il c'est des gens qui peuvent avoir peut-être des exigences particulières ou des critères bien précis?
Je pense qu'ils ne trouvent pas pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire une rupture de marché qui est compliquée à réengager. Pas parce qu'ils ont des exigences particulières, notamment parce que lorsque l'on est ex-propriétaire francilien, on a un pouvoir d'achat qui est assez impactant. Alors vous me direz, ça dépend évidemment des communes et des régions de façon plus large, voire même des départements. Mais voilà, on peut imaginer que si j'ai vendu 30 mètres carrés dans le 6e, je ne vais pas trop avoir de difficultés à me loger en Lozère. En tout cas, je vais avoir un pouvoir d'achat assez convaincant pour mon vendeur.
Et pour en revenir un petit peu à Paris, est-ce que vous attendez une vague, peut-être comme vous le disiez, estivale, mais peut-être un peu plus longtemps, un peu plus prolongée, par rapport justement aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ?
Oui, alors parce que je suis assez étonnée, mais vous, comme moi, je pense, de vos amis qui doivent vous dire oh, « bah, je ne sais pas si on pourra travailler en juillet-août ou même à compter de fin juin ». Donc j'ai l'impression que ces JO créent un attentisme dont on n'avait pas besoin, mais créent un attentisme et des difficultés qui ne sont pas encore là. Alors, et notamment, bon, bah, les déménageurs se refusent à organiser des déménagements pendant la période JO, on peut l'imaginer. Donc oui, il est certain qu'en juillet, août, il n'y aura pas beaucoup de transactions parisiennes. Oui.
Et est-ce que vous pensez que justement, peut-être des touristes qui peuvent venir à Paris, dans la fameuse pour eux, ville de l'amour, est-ce que c'est quelque chose qui peut leur donner peut-être envie justement de se porter acquéreur sur le marché parisien ?
Ça, je pense. En tout cas, c'est un effet qui a été constaté dans l'ensemble des villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques. Jusqu'à présent, il y a eu un effet impact étranger. Il ne faut pas négliger, hein, les étrangers, ils représentent, en tout cas sur le marché parisien, presque 13%. Hein, donc, ils sont bien là, hein, c'est quand même assez conséquent. Alors, 13%, quand il y a 40% de volume de transactions en moins, évidemment que ça fait un gros écart, mais ils sont là, ils sont bien présents. Donc oui, il est possible que les étrangers aient une envie post-JO qui n'avait peut-être pas été suscitée auparavant, c'est possible.
Est-ce que c'est justement ces touristes, ces étrangers qui peuvent venir acheter à Paris, est-ce que selon vous, ça s'explique peut-être par des fortunes peut-être aisées pour certains, ou par des taux de crédit qui sont plus bas dans leur pays et qui leur permettent peut-être justement d'acheter à Paris là où un francilien aurait beaucoup plus peiné, avec, comme on dit depuis tout à l'heure, des taux de crédit qui sont assez élevés par rapport à ce qu'on a connu.
Les deux, mon capitaine. Les deux, ça dépend du type de produit. Moi, je vais vous parler de mon expérience, de ce que je vois dans l'office où j'exerce. On a deux types de profils. On a le marché de luxe, l'étranger qui est sur le marché de luxe, et on a l'étranger qui est séduit par la ville et qui achète un pied-à-terre à Paris. Alors, sans caricaturer, on va dire l'américain et l'italien. Mais je donne, parce que j'ai deux exemples précis en tête. Celui qui va acheter, l'étranger non résident, donc qui n'habite pas la France et qui n'est pas fiscalement imposable en France, qui va acheter dans l'immobilier de luxe, c'est quelqu'un qui a une fortune. Très souvent, on voit sur des appartements qui font 200, 250 mètres carrés, et le profil professionnel, c'est très souvent quelqu'un qui travaille dans la finance, voilà. Et alors, il a ce double avantage. Et on a constaté l'année dernière, si j'ai dit la nationalité américaine, c'est par hasard, c'est que à la dernière conférence de presse, on a constaté que la part des acquéreurs étrangers non résidents était détenue ultra majoritairement, enfin 25% d'Américains, donc c'est pas négligeable. Et pourquoi ? Un, ce sont sur la clientèle luxe, aux produits luxe, sont des gens qui ont des gros moyens, donc autant vous dire qu'ils n'ont pas besoin de crédit, et de deux, qui ont une monnaie forte. Donc le dollar est fort. Donc ils ont deux avantages à investir sur Paris, en tout cas en Europe. Sur le deuxième profil, c'est les taux d'intérêt qui sont pratiqués à l'étranger, qui peuvent être plus intéressants et qui, alors certains sont révisables, d'autres non, mais qui sont plus intéressants parce que là, pour le coup, lorsqu'un étranger investit en France, s'il est non résident, les conditions de l'octroi du crédit en France vont être drastiques.
Et si vous deviez faire un petit peu un bilan de tout ça. Est-ce que les séries, des fois, parce qu'on en parle, il y a eu des échos, des chiffres, des études qui ont été sorties là-dessus. Est-ce que les séries qui sont diffusées peut-être des fois sur la France, comme par exemple, vous parliez des États-Unis avec le fameux Emily in Paris, est-ce que c'est des choses aussi qui jouent un petit peu, ou alors est-ce que c'est vraiment dans l'inconscient des gens de dire, ah bah il y a une série américaine, ah bah les Américains viennent acheter, ou alors est-ce que les Américains étaient déjà là avant, ils seront là pendant et encore après?
Non, et les Américains étaient beaucoup moins là depuis un petit moment. C'était pas eux qui étaient sur la première marche du podium, hein, si on doit faire une allusion aux Jeux Olympiques. C'était pas, non, ils avaient pas les médailles d'or. Ils sont revenus. Alors ils sont revenus et notamment depuis l'an dernier. Enfin, moi j'ai trouvé que depuis au moins février-mars 2022, ils étaient vraiment de plus en plus présents et ça s'est confirmé sur 2023. Et en effet, c'est pas du tout inconscient. Il y a un effet.
Un effet boule de neige par rapport aux séries où peut-être ils peuvent tomber un peu amoureux de certaines villes, certains quartiers.
Oui.
Et pour finir un petit peu sur et revenir au thème de votre conférence de presse sur le Grand Paris après les Jeux Olympiques de Paris 2024, eh bien c'est ça ma question. Quel visage pourrait avoir le Grand Paris selon vous après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ?
Alors, ce que l'on sait, mais rendez-vous à 11h, hein, parce que c'est pas moi qui en parlais, en tout cas pas moi qui en parlerai le mieux, assurément c'est notre invité. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des structures qui vont être mutées. Et donc, on espère que ça va servir également à amoindrir la souffrance de cette crise du logement, mais ça suffira pas, bien entendu. Ce que l'on sait aussi, c'est que, en tout cas, c'est les promesses qui ont été tenues, les transports en commun vont être améliorés, soit sur leur longueur, soit sur leur qualité. Voilà, sur leur coût, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je ne me permettrai pas de le faire. Et ce que l'on sait également, c'est que tout ce qui est infrastructure, notamment sur la Petite Couronne, et je pense dans le 93, mais Anne, qui va intervenir dans quelques instants, saura mieux vous en parler que moi, vont être conservées. Donc c'est sûr que ça va avoir un impact, ça va peut-être un peu changer le paysage, notamment de la Petite Couronne, et je pense au nord de la Petite Couronne, sur des communes qui sont déjà concernées par des infrastructures nouvelles.
Eh bien écoutez, vous avez fait la transition que je voulais faire pour ma dernière question, en parlant de cette crise du logement. C'était une question que je voulais vous poser la dernière fois. Alors cette fois-ci, ça fait un peu plus longtemps qu'il est en poste. Si vous aviez Guillaume Casbarian en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Aidez-nous. Aidez-nous parce que on reçoit des millions de clients. Je crois qu'on est peut-être la profession qui a le plus grand contact avec la clientèle civile, professionnelle. Enfin, on touche différents secteurs, différentes classes sociales, et on ressent, quelles que soient les classes sociales, quel que soit le profil CS, plus ou pas plus, on ressent un vrai malaise sur le logement. Je vais illustrer mes propos par trois exemples. J'ai une famille qui vient de se séparer. comme ils n'ont pas les moyens de se reloger puisque la solvabilité n'est pas suffisante, ils ont été contraints d'aménager l'appartement qui est un 3 pièces avec aucune division, mais l'appartement de madame à droite, l'appartement de monsieur à gauche et au milieu c'est un 60 mètres carrés, 10 mètres carrés consacrés à la chambre de l'enfant commun. Donc on trouve des trucs et astuces pour essayer de trouver une alternative à ben, un meilleur logement possible, sachant que c'est pas la solution idéale. Deuxième exemple que j'ai eu, c'était l'année dernière, des stagiaires qui sont en M2, qui viennent faire leur stage pour valider leurs études. Et il y en a un qui est arrivé le matin à 7h30. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait à 7h30? Pourquoi il arrive si tôt? Et en fait, il m'expliquait que c'était la première fois qu'il venait sur Paris pour faire son stage. Et que du coup, il n'avait pas trouvé de logement, si ce n'est une place dans un camping et pour pouvoir y planter sa tente. C'est pas normal.
Oui.
C'est pas normal. Et le troisième exemple, c'est une petite dame qui est veuve, qui vient de perdre son mari, qui a souhaité un prêt hypothécaire viager et qui n'aura pas les moyens de le rembourser, donc qui va se résoudre à vendre pour aller habiter dans un autre établissement, enfin dans un établissement qui va devoir quitter son domicile. Donc il y a une crise de logement, quelles que soient les professions, quels que soient les secteurs. Et je pense qu'elle est grave parce que sociologiquement, elle va vraiment impacter les esprits.
Eh bien écoutez, je vous remercie Elodie Frémont d'avoir été avec nous et je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Immo.
Le Club Notarial Immobilier, mardi 28 mai 2024.